Je suis Lucie Gay, donc je travaille à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Donc, je vais vous parler en fait de l'utilisation du protocole OAI-PMH pour diffuser ces notices donc du catalogue COA. Alors, je vais commencer par un rappel en fait sur le protocole OAI-PMH, parce que je ne sais pas du coup si tout le monde le connaît bien. Ensuite, je vous montrerai comment mettre en place un entrepôt OAI dans COA. Comment ensuite accéder à l'interface de l'entrepôt, comment l'interroger. Et puis après, je vous ferai donc un petit retour d'expérience par rapport à mon établissement, donc pourquoi nous avons mis en place un entrepôt, et puis voilà, quelques infos complémentaires. Alors, le protocole OAI-PMH, donc OAI-PMH, ça signifie Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, donc un protocole pour la collecte de métadonnées du projet Open Archive Initiative. Donc, c'est un protocole qui a été créé historiquement plutôt pour la diffusion de métadonnées d'articles scientifiques en accès ouvert, donc pour les archives ouvertes, et pour faciliter l'interopérabilité des ressources sans duplication du document primaire. C'est un protocole international qui est libre d'utilisation, et la spécification actuelle date de 2002. Donc, le protocole OAI-PMH, c'est un moyen d'échanger des métadonnées entre plusieurs institutions afin de multiplier les accès aux ressources. Le protocole OAI-PMH se base sur l'utilisation d'un format générique appelé Dublin Core. Donc, je ne rentre pas en détail sur ce que c'est que le Dublin Core, mais c'est un format qui contient de mémoire 15 zones, et qui du coup est très générique, peut être utilisé dans tous les domaines ou pour décrire tout type de document. Le protocole OAI-PMH met en jeu deux acteurs. Le fournisseur de données, donc c'est celui qui va exposer ces données pour qu'elles soient moissonnées. Et le fournisseur de services, donc c'est celui qui récupère ou moissonne, c'est le terme qu'on utilise beaucoup pour le protocole OAI-PMH, donc qui moissonne les données. Alors, le fournisseur de données, donc, comme je l'ai dit, donne accès à son catalogue à travers un entrepôt OAI. Cet entrepôt, il contient donc les notices. Et le fournisseur de données peut mettre en place des sets ou des lots qui sont en fait des sous-ensembles du catalogue qui vont correspondre à certains critères. Ça peut être des critères, ça peut être sur des thématiques, un set sur une thématique donnée. Ou ça peut être sur une typologie de documents, donc ça peut être, c'est au choix du fournisseur de données. Dans l'entrepôt, les métadonnées doivent être au minimum au format Dublin Core. C'est le format de base obligatoire. Après, il est possible d'exposer ces données dans d'autres formats, comme le MarcXML, c'est le format qui nous intéresse notamment dans ce cadre-là. Le fournisseur de services, donc on appelle aussi le moissonneur. Le fournisseur de services, il va collecter les métadonnées qui sont mises à disposition par le fournisseur de données, et il va intégrer ces métadonnées dans ses propres outils. Ensuite, il va proposer, donc ça peut être par rapport à un portail agrégateur, un portail thématique, une autre base, donc il va proposer une interrogation directe de sa base, et du coup, les entrepôts d'origine qui ont été moissonnés ne sont pas sollicités. Donc il agrège en fait les métadonnées dans son propre index. Il peut agréger des métadonnées donc, qui proviennent d'entrepôts différents. Le fait d'avoir le format Dublin Core qui est obligatoire en fait, permet une cohérence du coup, de ces données dans l'index qui est proposé par le fournisseur de services. Et ce qui est important aussi, quand les métadonnées décrivent un document numérique, le document numérique il n'est pas moissonné, ce sont uniquement les métadonnées. Et les métadonnées contiennent un lien vers le document primaire qui, lui, est sur le serveur du fournisseur de données. Alors, j'ai fait un petit schéma pour essayer de récapituler ces différentes parties. Donc, vous avez le fournisseur de données et le fournisseur de services. Donc, à gauche, vous avez les ressources, qu'elles soient physiques ou numériques. Donc, ça va être l'objet décrit. l'entrepôt, donc l'entrepôt qui contient les notices du catalogue, et les notices et leurs enregistrements au format XML. Donc il y a autant d'enregistrements que de formats proposés dans l'entrepôt. Donc à minima, c'est le format du BinCore, mais on peut proposer également marque XML ou d'autres formats comme le TEF pour les thèses ou le LOM. Voilà. Et à l'intérieur de cet entrepôt, vous avez des sets. Donc au minimum, il y a un set qui peut être toutes les notices, mais donc, c'est comme j'ai expliqué, c'est possible de créer plusieurs sets, et suivant donc, les critères qui sont définis pour créer les sets, une même notice peut appartenir à plusieurs sets. Donc là, dans l'entrepôt, ce sont les métadonnées qui peuvent être moissonnées. Et donc sur la partie à droite, vous avez le fournisseur de services qui va mettre en place un moissonneur qui va requêter les entrepôts et qui va récupérer donc, les métadonnées et les proposer à l'utilisateur final via un portail. Donc les points forts de ce protocole, c'est l'échange de métadonnées et pas des objets qui sont décrits. Le format de description générique, le du BinCore, et la possibilité, bien sûr, d'utiliser d'autres formats qui permettent de décrire plus finement les objets aussi. Point fort pour le fournisseur de données, c'est accroître la visibilité de ces ressources sur le web. Et pour le fournisseur de services, c'est permettre d'agréger en fait, des métadonnées qui viennent de différentes sources, et avec surtout une gestion simple et qui peut être automatisée, des mises à jour, puisque le moissonneur peut être paramétré pour aller moissonner toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, les entrepôts. Donc par contre, ça c'est un point qui est important, c'est que du coup, ce n'est pas une interrogation en temps réel. Il peut y avoir un décalage entre ce qui est contenu dans l'entrepôt du fournisseur de données et ce que propose le fournisseur de services si par exemple il choisit de moissonner tous les mois. Voilà, donc c'était un rapide rappel en fait sur le protocole OAI-PMH. Et maintenant, je vais donc partie un peu plus concrète, montrer comment on peut le mettre en place dans Koa. Alors, donc la première étape, c'est dans les préférences système. Je vais vous montrer directement aussi dans Koa. Donc pour la démonstration, je vais utiliser l'instance de test de mon établissement. Alors donc dans la partie dans les préférences système, dans la partie web service. Vous avez une rubrique qui concerne OAI-PMH. Donc évidemment, la première étape, c'est d'activer le serveur OAI pour Koa. Ensuite, vous devez définir un identifiant qui va donc aider à identifier les notices qui seront dans l'entrepôt. Donc en fait, là, c'est le préfixe de l'identifiant. Et ensuite... identifiant est construit comme ça en fait. Donc vous avez le préfixe que vous allez définir dans les préférences système, .bibionumber. Donc moi j'ai défini un préfixe koa-oai-test et le bibionumber à côté. Auto-update set, donc c'est pour activer ou non la mise à jour automatique des sets donc, que vous allez définir dans la deuxième étape quand une nouvelle notice en fait, correspond aux critères que vous avez définis pour le set. Fichier de configuration, donc ça c'est pour la partie format des métadonnées. C'est un fichier YAML. Et donc si vous ne mettez rien, si c'est vide, les métadonnées seront proposées au format du BinCore. Et vous pouvez préciser donc aussi d'autres formats. Donc j'ai mis un extrait. Donc le fichier, il ressemble à ça. Donc voilà. Donc pour nous, on a le format du BinCore et le format marque XML pour exposer les notices dans notre entrepôt. Deleted record, donc c'est pour que... C'est pour que les notices supprimées soient quand même dans l'entrepôt, mais avec un tag, en fait, supprimé. Et max count, c'est donc défini à 50. C'est donc, comme nous allons le voir un petit peu après, pour interroger un entrepôt, en fait, on utilise des requêtes avec des actions. Et parmi ces actions, donc, on peut demander des listes. Et donc là, on définit qu'on va avoir 50 résultats quand on va demander une liste. Et après, on pourra passer à la liste suivante. Mais disons qu'on affiche 50 résultats pour les requêtes qui concernent les listes. Ça, c'est bon. Donc la deuxième étape, c'est la configuration des sets OAI. Donc cette fois-ci, c'est dans donc, la partie administration, configuration des sets OAI. Donc là, moi, je l'ai déjà fait pour la démo, puisque après, pour construire le set, il faut avoir accès au serveur, donc je n'aurais pas eu accès ici. Mais c'est très simple, en fait, il faut cliquer sur nouveau set OAI, lui donner set spec, c'est un code, donc c'est un code qui va être utilisé aussi au niveau des requêtes. Et set name, donc c'est un libellé qui est un peu plus, on va dire, lisible. Vous pouvez tout à fait mettre la même chose, moi j'ai mis la même chose pour mon test. Et vous pouvez définir des critères. Voilà, vous pouvez définir des critères de sélection. Donc, si vous définissez aucun critère, ben, c'est toutes les notices qui seront dans votre set. Et sinon, vous avez des critères sur les champs et sous-champs. Donc, qui ressemble à ça. Voilà, donc moi pour l'exemple, pour mon set test ENS, je souhaite prendre donc toutes les notices de mon catalogue, sauf celles qui ont un code de connexion égal à web, qui correspond aux ressources électroniques qui ont été cataloguées dans Koa. Donc champ 0,99 sous champ T n'est pas égal à web. On peut rajouter des lignes. Et sachant que l'opérateur booléen, c'est où, ça, il n'y a pas de choix. Voilà. Donc là, vous avez défini les 7, vous pouvez bien sûr en créer plusieurs. Donc moi, j'en fais un pour l'exemple. Mais... Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc pour activer l'entrepôt, une fois que vous l'avez défini dans Koa, il faut avoir accès au serveur. Donc pour ceux qui n'ont pas accès, vous pouvez demander au prestataire. Et lancer le script qui est indiqué ici. Le chemin est un peu coupé, c'est dans SRC MISC Migration Tools. Vous lancez le script, évidemment suivant la taille de votre catalogue, ça va prendre plus ou moins longtemps. Donc nous on a un petit catalogue, 60 000 notices, je crois que ça a pris 10 minutes de mémoire, pour activer le set. Et donc à la fin vous avez une petite synthèse, voilà que mon set test ENS, il contient 60 141 notices, qu'il est activé. Alors ensuite, une fois que l'entrepôt est activé, le set est activé, vous pouvez accéder à l'entrepôt. Koa propose une interface qui est accessible pour un humain. Juste que je me rappelle de l'URL. Donc pour interroger l'entrepôt, c'est le moissonneur utilise donc une requête sous la forme d'une URL qui est construite en deux parties. Donc vous avez bien sûr l'URL de base de l'entrepôt et la requête d'interrogation. Et cette deuxième partie repose sur différents verbes qui sont prévus par le protocole. C'est un peu plus petit. Il y a 6 verbes. et certains fonctionnent avec des arguments ou attributs qui sont soit facultatifs, soit obligatoires. Vous avez GetRecord, donc qui permet d'afficher un enregistrement qui se trouve dans l'entrepôt en fonction d'un identifiant, donc d'un identifiant d'enregistrement, et d'un format. Ce qu'on a demandé donc, de l'afficher dans un certain format, donc ces deux arguments sont obligatoires. Identify, donc ça c'est un verbe qui permet juste d'avoir des informations sur le serveur ou sur l'entrepôt OAI. La liste des identifiants et des dates de dernière modification des notices qui sont disponibles dans l'entrepôt dans un format donné, donc cet attribut est obligatoire. La liste des formats qui sont proposés par l'entrepôt. La liste des enregistrements dans un format donné et la liste des ensembles qui ont été créés par le fournisseur de données. Donc, il y avait des couleurs avant dans le tableau, mais elles ont disparu. Donc c'est un tableau qui est inspiré d'un tableau qui était dans une présentation de Daniel Charnay sur le protocole OAIPMH, que je trouvais du coup assez clair. Donc sur la gauche, dans la colonne, vous avez les verbes donc, que je vous ai présentés et les attributs qui sont disponibles donc, en première ligne. Et donc si l'attribut est facultatif ou obligatoire. Donc vous avez certains verbes comme identify et listset qui n'ont pas d'attribut, qui peuvent s'utiliser sans argument. Et après d'autres, donc notamment les listes list records, vous pouvez préciser une date de début, une date de fin. Le metadata préfixe est obligatoire puisqu'on veut donc des enregistrements dans un certain format. Le nom du set est obligatoire et facultatif, pardon. Et vous avez le token, donc le token c'est le jeton. Le jeton, en fait, c'est donc quand vous lancez une requête pour avoir une liste, comme on a vu dans quoi c'est paramétré pour afficher 50 résultats. Pour avoir les autres résultats, en fait, la requête va utiliser un jeton. Et c'est exclusif parce que du coup, vous demandez des résultats avec les mêmes paramètres que ce que vous avez dans la requête initiale. Donc, vous ne pouvez utiliser que le jeton comme argument. Je pense que ce n'est pas très clair, mais j'ai un exemple après. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, l'entrepôt OAI, il est sur le même serveur donc, que votre COA. L'URL de l'entrepôt, elle est indiquée ici. Donc, en fait, quand vous c'est cette URL-là que vous pouvez fournir au moissonneur. Et là, donc, je vais vous montrer quelques exemples de requêtes d'interrogation. Donc là, c'est la requête. Je vais mettre ça ici. Donc la première pour le verbe identify. Vous arrivez donc sur l'interface de l'entrepôt. Et identify, c'est des informations générales sur l'entrepôt. Alors, donc, par exemple, list set. Donc, c'est la même structure. Donc, vous voyez bien. Vous avez l'URL de base qui va jusqu'à oai.pl. Donc ça, c'est l'URL de l'entrepôt. Et après, le verbe d'interrogation. Donc moi j'ai un set, c'est test ENS, il apparaît ici. Après, par exemple, pour le verbe list records, vous pouvez rajouter donc, et vous devez rajouter des notamment metadata préfixe qui est obligatoire, des arguments de cette manière-là, donc avec le et. Et là j'ai mis une date de début aussi. Donc là, il affiche une liste, donc c'est un petit peu plus long. Voilà, donc celui-là, c'est... Donc là, c'est la liste des enregistrements qui sont dans l'entrepôt, dans le format OAIDC, depuis, avec une date de modification depuis le 1er mai 2018. Alors là, évidemment, je suis sur une base de test, donc en fait, il y a un résultat. Donc là, vous voyez qu'il y a l'identifiant. L'identifiant est ici. Si je clique sur 7, je sais que cette notice elle appartient au set test ENS. Et si je clique sur metadata, je vois les métadonnées de cette notice. donc là au format du BinCore. Là, mon autre requête, c'était donc toujours une liste d'enregistrement, cette fois en marque XML, et du set test ENS. Donc là, j'ai un peu plus de résultats. Voilà, donc elles s'affichent les unes après les autres. On peut regarder les métadonnées, donc cette fois-ci, elles sont en marque XML. On va aller tout en bas. Donc il m'en a affiché 50. Je peux aller voir la suite. C'est un petit peu long à charger. C'est pas grave, je vais faire. Voilà, donc ça, c'est les 50 autres résultats. Et en fait, au niveau de l'URL, en fait, voilà, vous voyez le token. Donc, après le verbe list records, il m'a mis un token donc, et qui reprend toutes les informations que je lui ai données dans la requête initiale. Et donc deux autres exemples pour en utilisant le verbe get record. Donc là, on affiche directement un enregistrement en lui donnant son identifiant et le format dans lequel on veut l'afficher. Donc là, c'est pour montrer aussi la différence dans cette notice. Elle n'a pas de set, elle n'est pas dans le set que j'ai défini, parce que c'est une ressource en ligne. Et dans le 0.99... Je ne sais plus. Voilà, donc il y avait la valeur web. Donc c'est mon set était défini pour ne pas prendre en compte ces notices. Donc effectivement, elle est dans l'entrepôt parce que toutes les notices sont dans l'entrepôt, mais elle n'est pas dans le set que j'ai défini. Et contrairement à celle-là, par exemple, où on voit qu'elle est dans le set. Je crois que c'est. Voilà, donc là, c'était la façon donc, de mettre en place un entrepôt OAI avec Koa, comment définir les sets. Après, donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi nous, on a mis en place cet entrepôt. Donc, l'École normale supérieure Paris-Saclay appartient à la commu Université Paris-Saclay. Nous avons un outil de découverte mutualisé au sein de la commu. Donc l'outil découverte concerne 17 établissements avec 6 SIGB différents. Donc tous les établissements ont travaillé pour exporter leur catalogue, pour le rendre disponible dans cet outil découverte. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait que nous à l'ENS, nous avons mis en place l'entrepôt. Alors après, il y a des petits problèmes de mise à jour en fait. Actuellement, l'ENS Paris-Saclay va déménager dans un an dans des nouveaux locaux. Et nous travaillons beaucoup sur le désherbage en fait, des collections, notamment parce qu'on a aussi une mutualisation des ressources avec d'autres établissements à l'horizon 2020. Et on a un problème du coup dans la mise à jour entre Koa et l'outil de découverte, qui est au passage Primo, Neximris. En fait, il y a deux problèmes. Je vais commencer par plus simple. Dans Koa, nous avons la préférence système qui permet de ne pas afficher les notices, les exemplaires qui sont retirés des collections et les notices donc, qui n'ont plus d'exemplaires disponibles. Et le fait d'activer cette préférence système dans Koa, en fait, fonctionne aussi pour l'entrepôt. C'est-à-dire que mes notices, donc une notice qui a un exemplaire qui est retiré des collections, la notice va être dans l'entrepôt, mais elle n'aura aucune donnée d'exemplaire. Et du coup, ça pose un petit souci dans l'outil de découverte, puisque cette notice, elle est du coup moissonnée. Mais l'outil découverte n'est pas capable de trouver l'exemplaire, et du coup, comme on est dans un outil qui est mutualisé, dans l'instance ENS de l'outil de découverte, en fait, il affiche un exemplaire d'un autre établissement où il affiche rien du tout parce que personne n'a d'établissement. Donc ça, c'est un petit souci du coup sur lequel il faut qu'on travaille. Et le deuxième problème, c'est que donc, le moissonneur, il est paramétré dans l'outil découverte pour moissonner notre entrepôt, et il moissonne seulement ce qui a été mis à jour. Et toutes les modifications que nous faisons au niveau des exemplaires pour indiquer donc, qu'ils sont retirés des collections n'impactent pas la notice, n'impactent pas la date de modification de la notice, et ces notices en fait, ne sont pas remoissonnées. Ce qui fait qu'en fait, les exemplaires sont toujours disponibles dans notre outil découverte. Donc ça, c'est les deux points qui sont problématiques pour le moment et qui sont importants puisque, voilà, comme j'expliquais, on désherbe beaucoup. En fait. Voilà, c'est vraiment une action importante en ce moment. Donc il y a un petit souci de mise à jour et un petit décalage entre l'information réelle dans Koa et ce qu'on peut avoir comme information dans l'outil découverte Primo. Donc je me penche aussi du coup sur une autre façon d'exporter, mais bon, du coup c'est pas forcément le sujet, mais d'exporter plutôt en FTP, pour voir si ça peut pas résoudre des problèmes. Mais donc c'était juste un petit retour assez frais, parce que du coup c'est quand même assez, assez récent la mise en place de notre entrepôt et l'intégration dans l'outil découverte. Voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions, des demandes de précision. Oui. Oui. Effectivement, mais après, c'est qu'en fait, le moissonnage prend du temps. Et il y avait au début, on a eu des erreurs, enfin, des time-out par rapport au moissonnage. Donc, c'est vrai que si on peut éviter de faire enfin, que ça pouvait marcher pour un moissonnage des notices mises à jour, on préférait. Enfin, uniquement dans ça moissonne uniquement ce qui a été mis à jour, plutôt que tout remoissonner à chaque fois, en fait, on préférait. Mais. Oui. Mais du coup, oui, on fait des tests, là, on travaille dessus, effectivement, pour trouver des solutions. Merci.
Bonjour. Moi, j'ai une question. C'est au niveau des préférences système. Vous avez parlé d'un fichier IAML qui permettait de préciser les formats. Ce fichier, c'est vous qui l'avez constitué. Il est fourni par Biblio. Ça se passe comment ?
Alors, il était déjà paramétré parce que moi, je travaille à l'ENS depuis 9 mois. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, à prendre la suite, la personne d'avant qui avait commencé à travailler aussi sur l'entrepôt, c'était déjà paramétré. Donc, en fait, je ne sais pas si. Du coup, je regarde si c'est toi qui l'as fait aussi.
C'était quoi la question déjà ?
Le fichier YAML, oai.yaml, pour les formats. C'est toi qui l'avais mis en place ou c'était par défaut ?
Non, j'avais pas eu le temps. J'étais en train de partir. Donc, non, c'est Biblib qui l'a mis en place. C'est pas bien compliqué. Hein. Mais non, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Pas. Oui, c'est dans le cadre de la maintenance. C'est pas un souci. Bon, on peut le mettre à dispo, le fichier YAML.
Moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris l'histoire de l'option qui permet de cacher les exemplaires dans l'opaque Koa et que du coup, on ne les retrouve pas. Mais du coup, le problème, c'est que la notice est quand même exposée s'il n'y a plus d'exemplaires affichés, c'est ça ? D'accord, ça y est, j'ai compris.
Sinon, j'avais un exemple. Mais...
Bonjour. Moi, j'ai une question qui est liée au fichier YAML. Vous avez dit que s'il n'y a pas de fichier, on exposera uniquement les métadonnées en doublinker, c'est ça ? Et ces données en doublinker, vous avez fait un mapping ou elles sont exportées directement par quoi ?
Alors moi, j'ai pas fait de mapping. Je ne sais pas du tout s'il y en a un dans quoi. Enfin, si comment ça a été, comment ça fonctionne. J'avoue que je n'utilise pas en plus de, du coup, enfin pour outils découvertes, on utilise le format marque XML. Donc du Bincore, je ne me suis pas trop penchée sur la correspondance effectivement entre les champs de quoi et les champs du Bincore.
Les enregistrer en tout cas notice par notice, c'est sûr, en Dublincore. Je pense qu'on peut faire un export en masse en Dublincore aussi, directement depuis quoi.
Du coup, le mapping, tu sais comment il est fait,
Il est correct.
De mémoire, il me semble qu'on fait un export en ligne de commande, on peut lui dire dans quel format on veut exporter. C'est comme ça que j'ai fait l'export global en marque XML pour le fournir à Primo, enfin à Exlibris.
D'accord, donc mapping par défaut a priori. Quelqu'un a une information pour compléter ou non ? D'autres questions ? Non, bah bon, alors on peut aller à la pause, je crois que les autres ont déjà commencé. Merci.